Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les visites radiophoniques sur 48FM. Je suis avec Caroline du CAUE. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et puis avec Nelly du Pays d'Art et d'Histoire. Salut Nelly.
Salut.
Alors les filles, vous m'emmenez où aujourd'hui pour cette visite radiophonique ?
Pour cette 64e visite radiophonique, on t'amène aux sources du Pays d'Art et d'Histoire.
Allez, c'est parti.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-Angévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
On vient d'arriver, on a fait un peu de route, une petite demi-heure de route sous le soleil lozérien. Caro, on se trouve où là ?
Eh bien là, on est sur la ligne de partage des eaux entre le Lot, qui va se couler vers l'océan Atlantique, et l'Altier, qui lui va rejoindre la Méditerranée. L'Altier, il est juste là, en face de nous, à l'inflexion des cols de Santelle et des Tribes. Le Lot, il est un petit peu plus haut, vers le Blémard, non loin du hameau des Alpiers.
De souvenirs, vous y étiez allé ici déjà pour un enregistrement lors d'une journée de tempête terriblement pluvieuse.
Ouais, je pense que Ludo et ses pieds s'en rappellent encore, oui. Et donc on est ici au début de la vallée de l'Altier, entre le mont Lozère, en face de nous, les premiers contreforts de la Margerie, de le Goulet, qu'on devine un petit peu derrière. Et on est ici sur le rebord de la champ gréseuse du Blémard. La champ signifie en occitan, ça veut dire plateau ou cosse. Et dans ce secteur amont, on a un petit fond de vallon ici qui s'inscrit lui dans le schiste et il offre un profil un peu de cuvette assez ouverte et qui met en valeur des pâturages bocagers, donc c'est-à-dire ces prairies entourées d'arbres, et on devine au fond de cette cuvette le village de Cubières.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va visiter le village de Cubières, qui fait partie, enfin la commune de Cubières dans son intégralité, fait partie du Pays d'Art et d'Histoire depuis plusieurs années maintenant. Et pour rebondir sur ce que disait Caro, Caro parlait de ce profil de cuvette, et bien c'est une des toponymies qui est avancée pour expliquer donc l'origine du nom Cubières, une des plus probables d'ailleurs, puisque Cubières pourrait en effet tirer son nom du mot cuve, creux. On sait que plusieurs localités en France portent ce nom, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, en Ariège, dans l'Aude, dans le Gard et dans les Yvelines même. Et donc il faut comprendre dans le sens de lieu dit caractérisé par un creux semblable à une cuve. Et donc là, on est positionné en fait, Caro l'a pas dit, mais on est donc en surplomb avec une vue assez panoramique sur le village de Cubières, et on voit bien donc ce profil de cuvette qu'elle nous décrivait.
Et du coup, la commune, elle est dans cette cuvette. Par contre, il a une altitude très variée. En fait, on part de 1633 mètres à la station de ski que l'on voit juste en face de nous, à 756 mètres environ. C'est quand même une grande commune qui compte plus de 48 km² avec près de 17 hameaux. Excusez-moi. Et donc, elle est un petit peu en forme de dent, cette commune, dont les racines remontent jusqu'au Finiels, et de l'autre côté, le long du ravin du Grand Jas. Et puis, ces deux branches les entourent la plus petite commune de Cubierrette, qu'on visitera peut-être lors d'une prochaine visite. Et elle va au nord toucher carrément le Goulet vers le hameau des Alpiers.
Alors, près de 48 km², 17 hameaux. Nelly, ça fait combien d'habitants pour cette commune ?
Ça fait seulement 203 habitants en 2024. Donc, il faut... Et avec ça, en plus, 70 habitants à l'année environ sur le village même de Cubières. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée, on a une densité moyenne de 3,9 habitants au kilomètre carré sur la commune de Cubières. Pour faire la moyenne, en Lozère, on est à peu près 15 habitants au kilomètre carré. Donc voilà, il fait bon vivre à Cubières, on n'est pas embêté par des voisins intempestifs. Mais voilà, une commune vaste avec un habitat dispersé. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de Cubières. On va aller visiter le village même de Cubières. Et évidemment, à travers lui, on va évoquer un petit peu l'histoire de la commune, du territoire communal de manière plus générale. Mais on va se focaliser essentiellement sur le village même de Cubières.
Du coup, petite question pour toi, Thomas, à ton avis, quelle est la commune la moins densément peuplée de Lozère avec 1,29 habitants au kilomètre carré ?
C'est compliqué, il y a beaucoup de communes en Lozère un peu de ce type-là, je ne sais pas. Je réfléchis, je dirais dans les Cévennes, en vallée française ou quelque chose comme ça, non ?
Et alors, c'est complètement l'opposé, c'est la commune de Marchastel, sur l'Aubrac. Du coup, pour comparaison, on est quand même beaucoup plus densément peuplé que le Groenland, avec 0,03 habitants au kilomètre carré. Groenland qui est devant la Mongolie, qui elle est à 2 habitants au kilomètre carré. Donc, Marchastel est moins peuplé que la Mongolie.
Bon, quand on écoute les visites radiophoniques, on parle parfois, et puis surtout de l'exode rural, est-ce qu'il y a toujours eu aussi peu d'habitants ou quand même il y a un moment où il y avait plus de monde ici à Cubières ?
Non, évidemment, oui. La commune a connu évidemment un pic de population, a eu beaucoup plus d'habitants, notamment au XVIIIe siècle, et puis après au XIXe, et a connu son pic de population en 1806 avec, attention, 1297 habitants. Et comme tu le disais, au début du 19e, donc, les habitants sont des paysans mineurs. Et puis, à la fin du 19e, s'amorcer donc, l'exode rural que toutes les communes de Lozère vont connaître ici. Alors, peut-être pour reprendre, donc, au début du 19e siècle, les habitants sont majoritairement des paysans mineurs. Ils cumulent les deux activités sur la commune de Cubières. Ils travaillent généralement aux mines du Mazel et s'y rendent par la route de Nérac et une galerie directe qui les conduit à la mine. Le déclin du village, donc comme je le disais, va s'amorcer à la fin du 19e siècle avec ce fameux attrait des villes pour trouver de meilleures conditions de vie à ce moment-là.
Et si tu veux, Thomas, on va se diriger directement au cœur du village. Donc on va descendre notre promontoire.
On descend dans la cuve. Allez, c'est parti. On vient de se garer au cœur du village, on est à deux pas de l'église. Nelly, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur l'histoire de Cubières ?
Alors, on sait que la commune est occupée dès l'époque gallo-romaine et même avant. Plusieurs sites en témoignent, notamment le site majeur minier situé au Coudenas, sur la face nord du mont Lozère, près de Nérac, où sont exploitées des mines de plomb argentifère au cours des périodes gauloises, gallo-romaines, médiévales et contemporaines. La mine faisant alors partie de la concession du Blémar, ouverte en 1903 et qui fermera en 1953. Donc une occupation ancienne du territoire.
Le village il s'est d'ailleurs développé par une grande voie de communication, la voie romaine qui reliait Mende à Villefort et qui desservait comme ça plusieurs sites miniers dont parlait Nelly tout à l'heure. Plus tard, le village va se développer parce qu'il se trouve au carrefour de voies communication et s'enrichit avec le droit perçu sur sa taxe commerciale. C'est un carrefour assez important pour les marchandises, notamment à dos de mulet. On le verra dans les maisons du village. On va retrouver plusieurs traces de ces maisons de muletiers. Également des maisons de forgerons, de maréchal ferrants, d'auberges. Voilà tout ce qu'on va retrouver dans un bourg un peu conséquent à cette époque-là.
Et donc, elle s'appelait comment cette voie romaine, Nelly ?
C'est la fameuse Via Sotairana. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas sûre de moi. Mais on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans nos émissions, dans ce secteur-là, puisque c'est une voie très importante de l'époque gallo-romaine et utilisée donc, au Moyen-Âge. Ce qu'on peut dire après donc, cette fameuse période gallo-romaine, c'est qu'au Moyen-Âge, Cubières fait partie de la fameuse baronnie du Tournel, que nos auditeurs connaissent bien aussi. Le château du Tournel, on est passé devant pour venir. Il est situé vraiment à quelques lieues en fait, de Cubières. Mais cette fameuse baronnie du Tournel donc, est une des plus puissantes en Gévaudan au Moyen-Âge. Elle a un territoire immense. Et on sait que Cubières en fait partie, puisque dans l'hommage qu'Odilon Guérin, seigneur du Tournel, rend à l'évêque de Mende en 1219, sont mentionnées les forteresses secondaire de la baronnie, du fameux mandement du Tournel, et Cubières en fait partie. Et donc ça, c'est une source assez intéressante, puisque ça nous indique que Cubières était fortifié au XIIIe siècle.
Un village fortifié.
Ben oui, et on en voit encore les traces aujourd'hui. Alors, pas forcément quand on s'y promène à pied, mais avec une vue aérienne, on voit très bien cette forme à peu près circulaire. Les maisons du centre du village, elles sont très serrées, avec des petites rues. Elles sont regroupées de manière assez circulaire, sans véritable place historique. Ça, on peut le dire, mais on n'a pas forcément d'espace public central dans Cubières, ce qui est assez rare pour un village. Cette forme laisse penser voilà, que le village médiéval pouvait être entouré par des constructions qui étaient regroupés autour d'un bâtiment principal, de l'église et quelques maisons. Mais on n'a pas vraiment de traces à proprement parler de vrais remparts comme on l'imagine à des grands murs. Il faut l'imaginer plutôt que le rempart était plutôt les bâtiments en eux-mêmes hein, qui venaient protéger le cœur du village. Et puis le village est aussi installé sur une forteresse, j'ai envie de dire naturelle. On est sur un petit éperon rocheux, une petite butte qui est entre le ruisseau de l'Altier sur notre gauche et Durieutor sur notre droite. Et donc le village est coupé de ces extensions plus récentes, notamment des espaces agricoles qu'on a traversés, des extensions plutôt des années 2000 sur l'autre rive.
On va se rendre dans le cœur du village au niveau de l'église. On vient de faire vraiment une toute petite marche, on était garé déjà juste à côté. Et là, on se trouve devant cette belle petite église, Caro.
Oui, on est devant l'église à l'emplacement du cimetière, puisqu'en fait, le cimetière a entouré initialement le bâtiment. Et l'entrée se faisait par le côté sud, on le verra tout à l'heure, c'est encore visible de l'extérieur. Et à l'origine, elle était d'une dimension un peu plus réduite, seulement le chœur, le transept et la chapelle de la Vierge qu'on verra en rentrant. Et elle sera agrandie au fil du temps, en fonction des besoins.
Alors, on peut peut-être signaler au passage un fait un peu remarquable, ou en tout cas intéressant, c'est que la commune de Cubières possède pas moins de 3 églises. Ça, c'est assez rare. On a souvent dans les églises assez étendues 2 églises. Ici, on en a 3. Donc, on a celle de Cubières, celle de Pomarez et celle de Villebasse. Donc, Pomarez et Villebasse sont 2 églises du 19e siècle. Celle de Villebasse est fermée pour l'instant puisqu'elle est en état de péril. Alors, ce qu'on peut dire sur l'église de Cubières, c'est qu'elle est placée sous le vocable de Saint-Étienne et de Saint-Privat. Saint-Étienne est un prédicateur juif du 1er siècle qui est considéré comme le premier diacre, et le premier martyr de la chrétienté. Simplement, pourquoi je dis ça? Pour expliquer que ça donne une indication sur l'ancienneté de la fondation de l'église. L'église de Cubières est mentionnée pour la première fois autour de l'an 1000. Et donc, ça montre ça plus en vocable qu'elle est de fondation très ancienne. Alors, les archives sont peu nombreuses hein, sur cette église. Elles nous apprennent qu'elle est bâtie avec soin et qu'elle sert de refuge à la population en période de troubles. Mais là, j'ai envie de dire, rien de très original. Évidemment, on sait qu'elle est endommagée durant les guerres de religion. Puis, un acte de 1626 indique qu'elle était abîmée encore au XVIIe siècle. Donc voilà, manque de moyens sûrement qui donc entraîne un manque d'entretien dans l'église et on sait qu'à certaines périodes donc les habitants vont se tourner vers les églises voisines, notamment celle de Cubierette qui est vraiment située toute proche. Et comme l'a dit rapidement Caro tout à l'heure, donc l'église est modifiée au fil des siècles, la nef semble d'abord construite puis en 1771 on ajoute la chapelle Saint-Joseph qu'on verra donc en rentrant dans l'édifice. Le massif occidental devant lequel on se trouve, lui, est beaucoup plus tardif, puisqu'il est construit en 1879. Le clocher, typique de l'architecture du 19e siècle, est reconstruit. Le portail occidental est percé et une tribune est aménagée à l'intérieur.
Bon, Nelly, tu viens un peu nous parler d'architecture. C'est ton domaine de prédilection, Caro. Tu nous parles un peu de cette façade?
Oui, comme le dit Nelly, nous sommes ici face à une architecture assez représentative du 19e siècle, ce qui est assez rare hein, dans les églises que l'on peut croiser sur le département. Alors pour la décrire à nos auditeurs, donc on trouve une petite série d'arcades décoratives en plein cintre, donc ces petits demi-ronds que l'on trouve un petit peu partout sur la façade. On va la retrouver sur le portail, au-dessus de la porte d'entrée, sur les fenêtres géminées au premier niveau, si j'ai envie de dire, et là où il y a la cloche. Et sur ce détail-là, on a ce qu'on appelle une polychromie, une alternance du coup entre l'ocre clair, du calcaire et une pierre volcanique dont on ne connaît pas vraiment l'origine, du basalte certainement. Qu'on retrouve aussi sur les pilastres de la porte d'entrée, avec ces petites colonnes en forme de feuilles. On peut voir aussi un joli jeu de corniches horizontales, donc c'est ces grandes lignes horizontales que l'on voit au-dessus des pilastres, au-dessus du portail, qui sont vraiment là décoratives. Et contrairement à la nef qui est couverte en schiste, le clocher, lui, est en pierre maçonnée calcaire, ce qui est assez rare aussi dans notre département.
Ouais, c'est vrai que cette église-là, de mémoire, en Lozère, j'en vois pas beaucoup des églises qui ressemblent à ça, notamment sur la façade.
Non, effectivement, on a une très belle façade avec cette polychromie, comme me disait Caro, et ce clocher qui est couvert de pierre calcaire et non pas de lauze. C'est assez atypique et ça mérite vraiment le détour. Et pour terminer sur le clocher, donc le clocher a vécu un épisode assez dramatique en 2005, puisque suite à un violent orage et un coup de foudre, le clocher implose brutalement. Donc face à l'ampleur des dégâts et à l'attachement des habitants à leur église, la municipalité prend une décision forte et assez atypique pour le coup aussi. Elle rouvre exceptionnellement la carrière de pierre du Nérac afin d'utiliser la pierre d'origine pour la restauration. Donc c'est un choix extrêmement judicieux qu'il faut vraiment souligner parce que ça respecte donc l'identité de l'édifice et ça montre le profond attachement de la commune à son patrimoine. Voilà. Donc le clocher avait d'ailleurs subi les assauts du temps bien avant, puisque déjà en 1875, après de fortes inondations, il s'était effondré. Donc voilà, il faut imaginer à l'origine l'église dotée d'un clocher peigne, ces fameux clochers murs qu'on voit dans toutes nos églises, des clochers à peu de frais, dans la clocher et mur dans lequel prenaient place deux cloches. L'une fondue en 1758 et l'autre bénie en 1767.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, on a un ciel bleu, il n'y a pas d'inondation, donc normalement, on pourrait rentrer sans souci.
Ouais.
On y va ?
On y va.
Allez.
On vient de rentrer, on est un peu plus au frais maintenant ici. Caro, tu nous décris un peu l'intérieur de cette église ?
Oui, ben alors on est sur un plan assez classique, symétrique. On a une nef unique et de part et d'autre, deux chapelles latérales dans le bras du transept. Donc l'une dédiée à la Vierge sur la droite, c'était l'emplacement notamment de l'ancien accès, et celle dédiée à Saint-Joseph sur la partie gauche.
On vient de parler un peu de la structure de cette église, mais Nelly, est-ce qu'il y a quelques objets remarquables aussi qui constituent cette église ?
Oui, alors déjà, pour compléter ce que disait Caro, donc c'est une église entièrement peinte, avec des badigeons de couleurs, dans des tons assez chaleureux. Et puis en termes de mobilier, donc on a un ensemble assez homogène, plutôt du 19e siècle, mais il faut noter donc d'abord les vitraux qui sont du 19e siècle et qui présentent donc à gauche les armes de l'évêque de Mende en fonction à cette période-là, tandis que celui de droite arbore les armes de la famille de Cubière. Au premier de gueule à l'étoile d'or, au second d'azur au griffon du même l'an passé et vinlené d'argent, la queue passée entre les pattes. Donc peut-être on reparlera de la famille de Cubière quand on sera dehors. Et puis à noter aussi une belle vierge en bois doré du 18e qui devrait faire l'objet d'une restauration incessamment sous peu. Et puis dernier élément qu'on peut signaler, qui dans sa forme et dans son architecture n'a rien d'extraordinaire, mais qui nous renseigne sur l'histoire de la commune, c'est le monument aux morts de 14-18, qui est donc installé dans la nef de l'édifice, et qui donc nous montre une fois de plus que la guerre va littéralement décimer le village, enfin la population de Cubières.
Et puis on trouve deux autres monuments aux morts, un à Pomaré et un dans l'église de Villebasse. Et avant de ressortir, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a les pilastres de l'église, donc ceux côté chœur et ceux en amont des chapelles qui sont un petit peu en biais. Par contre, on voit bien la reconstruction avec au-dessus de la tribune, là des pilastres qui sont totalement droits. Et là, on voit bien le côté de la reconstruction. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir dehors la fameuse ancienne entrée.
Allez. On sort de l'église. Bon, effectivement, quand on sort à droite de l'entrée de l'église, on peut voir à côté de la fontaine l'ancienne entrée de l'église. Ouais.
Ouais, qui se lit bien sur la façade sud.
Bon, allez, prochain arrêt, on y va.
Allez, on s'enfonce dans le village.
En train de se balader dans le village, c'est vrai que c'est assez mignon. On retrouve un peu ce que tu disais sur le côté médiéval, forteresse ou que des petites ruelles avec des petites maisons. C'est à peu près ça l'esprit du village.
Oui, c'est ça. En fait, on invite les gens à se promener vraiment dans ces petites rues parce qu'il voilà, y a les routes, enfin les rues carrossables et toutes ces petites rues piétonnes qui sont assez agréables. On découvre une architecture de qualité, assez soignée, avec des maisons de muletiers, c'est-à-dire au rez-de-chaussée des grandes ouvertures cintrées où on pouvait du coup rentrer avec sa mule. Et puis le premier étage plutôt habité, et puis les combles bien sûr pour tout ce qui est stockage de grains, etc. Mais voilà, on a des rez-de-chaussée avec des belles ouvertures cintrées, quelques petites loses qui viennent protéger comme ça le devant de cette porte cochère en quelque sorte, hein. Voilà, donc des fenêtres médiévales avec des encadrements sculptés ou au moins biseautés. Donc une architecture quand même assez soignée.
Si on poursuit donc notre visite dans le village, on peut tomber sur quelques petites pépites, notamment là une tour à l'emplacement dit de l'ancienne maison forte ou château de Cubières, qui aurait appartenu à cette fameuse famille de Cubières dont on a rapidement évoqué le nom dans l'église. Voilà, et puis évidemment, inutile peut-être de rappeler qu'en vous baladant, vous tomberez aussi sur des éléments du patrimoine de proximité caractéristiques de nos villages, c'est-à-dire les croix, les fontaines, des indices de four à pain ou encore des fers à doux, ce genre de choses.
Et puis le café-restaurant Bargeton, qui est quand même là depuis 4 générations, il existe depuis 1740.
Pour rebondir sur ce que disait Caro, pour les bâtiments, on va dire, de la vie communautaire, donc hormis le four à pain, les cafés-restaurants qui participent pleinement à la vie sociale du bourg, on peut peut-être citer aussi le couvent devant lequel on est passé, qui est situé donc vraiment à l'entrée du village, de l'autre côté de la rue, face à l'église. Il faut savoir que Cubières donc possédait deux écoles, une école laïque pour les garçons et une école privée pour les filles, située donc dans l'ancien couvent. C'est un couvent assez caractéristique, hein, qu'on va retrouver dans beaucoup de villages à cette époque-là, et qui donc participe pleinement à la vie communautaire, puisque au-delà de faire l'école pour les filles, c'est généralement les sœurs du couvent qui vont aussi assurer le catéchisme pour l'ensemble des enfants, et qui vont assurer aussi un soin à la personne, puisque généralement une des sœurs est infirmière. Voilà.
Bon, on arrive doucement sur la fin de cette visite radiophonique de Cubières, mais avant, Caro, tu voulais nous emmener quelque part où il y a une petite actualité dans le village.
Ben oui, on ne peut pas sortir de Cubières sans parler de son 1000 clubs. Et du coup, une petite actualité, donc on a recensé les 1000 clubs en Lozère. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, dont celui de Cubières, celui de Villefort et celui de Châteauneuf-de-Randon. Et donc celui de Châteauneuf-de-Randon a été proposé, en tout cas la labellisation architecture contemporaine remarquable. Donc on attend la réponse sous peu, mais il est possible que nous ayons une petite pépite patrimoniale 2000 clubs.
Tu parles de 1000 clubs, mais c'est quoi un 1000 clubs, moi je me demande.
Alors les 1000 clubs, ça veut dire en fait les 1000 clubs de jeunes. Et c'était un programme qui avait été lancé en 1966 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui lance un grand concours d'équipements sociaux éducatifs. Et du coup, le gouvernement, il en propose plusieurs sur le territoire. Et le principe, en fait, c'est que c'est des bâtiments en kit qui vont être construits par souvent le comité des fêtes, le club des jeunes et les foyers ruraux. Et donc, on vient construire un terrassement, un mur en béton, un soubassement, sur lequel on va construire une structure modulaire. Donc c'est vraiment destiné aux ados de la première génération du baby-boom. L'objectif du concours, c'est de produire vraiment des modèles en série, économiques, adaptables à toutes les régions. Et donc on va avoir trois modèles de 1000 clubs. En Lozère, nous avons le dernier de ces trois modèles. Et donc c'est le modèle dit SIL. Et donc c'est vraiment le dernier. Et on ne le voit plus aujourd'hui parce que nos 3000 clubs l'ont recouvert. Mais historiquement, on les reconnaissait assez facilement avec une toiture en écaille bleue. Amianté, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, ils ont été recouverts de bacs acier, comme ici, de zinc ou de bardeaux de bois, comme à Châteauneuf de Randon. Et puis, ils ont cette forme de deux pyramides assez caractéristiques.
Pour ceux qui veulent voir et découvrir le 1000 Club de Cubières, il est situé donc à l'entrée du village, juste avant l'église, sur la gauche.
On espère que ce mini-club sert encore aux quelques habitants, jeunes habitants du village. Pour terminer l'épisode, la tradition, est-ce qu'il y aurait une ou deux anecdotes pour briller en société qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs ou auditrices ?
Bon, alors là, on a fait les fonds de tiroir, je ne te le cache pas, Thomas. On n'a pas une anecdote pour briller en société, mais une anecdote qui tue sur Cubières, parce que figure-toi que vers 1630-1640, il y a eu un crime dans l'église de Cubières. Gabriel Devez attaque Claude de Montredon et le tue. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Ça oblige à resacraliser l'église suite à ce crime terrible qui a lieu sur un lieu sacré.
Voilà. Moi, j'ai eu de la chance tout à l'heure quand j'ai visité l'église, il n'y a pas eu de tentative d'assassinat.
Attends, j'ai pas entendu.
Et donc, pour la prochaine fois, on va aller où ? Là, c'est bon, on était aux sources du pays d'art et d'histoire, on va se rendre où maintenant ?
Eh bien, la prochaine fois, on ira voir si à l'Est, il n'y a rien de nouveau.
Allez, on prend la voiture et pour vous, auditeurs, auditrices, à la prochaine.
Bye.
Bye bye.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.